France Inter. Le 7-9.
7h48, Léa Salamé, votre invité ce matin est l'ancien correspondant du Monde à Istanbul.
Bonjour Guillaume Perrier.
Bonjour.
Vous allez nous donner dans un instant votre analyse des résultats des élections turques d'hier. Mais d'abord direction Istanbul. Delphine Minoui, bonjour à vous.
Bonjour.
Recep Tayyip Erdogan a donc été réélu président hier avec un peu plus de 52% des voix. Comment s'est passée la nuit pour les opposants qui espéraient pour la première fois dans les derniers jours de campagne pouvoir un peu renverser la table, en tout cas au moins obtenir un second tour?
Oui, une nuit très éprouvante évidemment pour cette opposition parce qu'elle y avait cru. Elle avait cru sinon à une victoire de son clan, du moins à la possibilité d'un second tour. Cette opposition, elle a mené campagne, il faut le rappeler, avec de gros handicaps de départ. Un manque de temps d'abord, puisque la date du scrutin avait été précipitée. Un manque de moyens aussi, mais elle a créé la surprise en se mobilisant ces dernières semaines, ces derniers jours, en formant une alliance et surtout, pour l'un des partis, en présentant un candidat qui était jeune, dynamique, un candidat charismatique en la personne de Muharrem İnce, qui, il faut le rappeler quand même, a obtenu plus de 30% des voix dans le scrutin d'hier, ce qui est quand même une mini-victoire en soi.
L'opposition dénonce des fraudes, un vote manipulé. Qu'en est-il, Delphine? Ces élections sont-elles démocratiquement acceptables?
Des irrégularités, il y en a eu, ça il faut le reconnaître, notamment dans le sud-est, à majorité kurde. De nombreux témoins avec qui j'ai parlé tout au long de la journée d'hier m'ont parlé de bourrage d'urnes. Ils m'ont également raconté la présence très très renforcée des forces de sécurité dans les bureaux de vote. Et puis il faut aussi le rappeler, ça c'est important, selon la nouvelle législation, les bulletins ne doivent pas être estampillés. Ce qui, évidemment, laisse la voie à des fraudes, à de nombreuses fraudes possibles. En même temps, il y a une autre réalité qu'on ne peut pas ignorer, c'est qu'Erdogan et l'AKP continuent à avoir une base solide. Même si elle s'est effritée ces dernières années, tout ce discours islamo-nationaliste, ce discours, il continue à plaire. C'est un discours sur la grandeur de la Turquie, sur le besoin d'un puissant leader. Et ça, je l'ai beaucoup entendu aussi hier dans les quartiers les plus traditionnels d'Istanbul.
Merci Delphine. Guillaume Perrier, on sentait vraiment, et Delphine Minoui l'a dit les derniers jours, que l'opposition marquait des points, créait une dynamique. Il y avait eu une manifestation monstre il y a encore 2-3 jours. Finalement, c'est raté, il n'y aura même pas un second tour. Pourquoi? Comment Erdogan a-t-il encore gagné?
Il a, depuis 15 ans maintenant qu'il est au pouvoir, je crois, une maîtrise hors du commun du processus électoral en lui-même. Donc il maîtrise parfaitement, si vous voulez, la préparation de ses élections, le conditionnement des électeurs, la campagne électorale en elle-même, et aussi l'organisation du vote. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la carte électorale en Turquie. Il connaît chaque militant de chaque circonscription qu'il a lui-même nommé. Il a donc une confiance totale dans ses gens sur le terrain, et ça lui donne évidemment une maîtrise du processus électoral, encore une fois.
Au fond, il est symptomatique de l'époque, Erdogan, avec ce besoin d'un chef, le retour des figures charismatiques. C'est aussi ça qu'il incarne,
mais c'est
le petit père de la nation.
Erdogan est un leader de son temps. C'est l'archétype du populisme du 21e siècle, Erdogan. À l'époque où on aime Trump, où on aime Poutine, je crois qu'Erdogan est parfaitement dans son époque.
Et pourtant, entre son autoritarisme de plus en plus exacerbé, on a beaucoup parlé du tournant de 2016 avec le coup d'État raté, de plus en plus autoritaire, ses mauvais résultats économiques, 15% d'inflation en Turquie aujourd'hui, ce qui est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas eu une lassitude quand même chez les Turcs?
Si, il y a une grande lassitude, il y a un épuisement aussi par rapport à toutes les crises qui se sont succédées depuis 5 ans maintenant, des crises politiques, des manifestations, un coup d'État, des affaires de corruption retentissantes. Donc tous ces obstacles, il a réussi à les renverser. C'est ça qu'on oublie, c'est que Erdogan, on l'a donné mort plus d'une fois ces dernières années. À chaque fois, il a réussi à renverser l'obstacle. Parce qu'il a un instinct de survie politique hors du commun, c'est ce qui en fait, je crois, un leader aussi charismatique que les gens ont envie de suivre aveuglément, quel que soit le programme qu'il propose, quelle que soit la vision du monde qu'il propose.
Nous, notre vision un peu occidentaux-centrée, c'est de dire, mais enfin, avec toutes les exactions des derniers mois, les universitaires, les écrivains, les artistes en prison, les purges, ça n'a pas du tout joué sur le vote?
Ça a joué, parce que sans doute que son soutien aurait été encore plus grand dans un contexte pacifique et avec une stabilité économique affirmée. Mais Erdogan a réussi, encore une fois, à mobiliser son électorat autour des valeurs qui sont des valeurs immuables en Turquie. C'était d'abord le nationalisme turc, hein. On a tendance aussi à se focaliser sur l'identité islamiste d'Erdogan, alors que je crois que le principal caractère de son pouvoir, c'est d'abord ce nationaliste qui est le ciment de la nation.
Delphine Minoui, pourquoi l'opposition ne s'est pas alliée avant le premier tour? Leur deal, c'était s'il y a un second tour, on s'alliera tous ensemble pour faire tomber Erdogan. Mais est-ce que c'était pas trop tard, en fait, ce calcul-là? Delphine? Non, elle n'est plus avec nous. Alors, je vous la pose à vous, la question.
Je crois qu'il y a eu pas mal d'emballements aussi autour de l'opposition, parce que finalement l'opposition d'abord a été très hétéroclite, hein, cette alliance entre des islamistes, des kémalistes, des néo-nationalistes avait pour seul programme de faire tomber Erdogan finalement. Donc encore une fois, même dans l'opposition, c'est Erdogan qui détermine l'agenda politique finalement.
Et cette nouvelle figure de l'opposition dont on parle beaucoup, Delphine Minoui nous en parlait, Muharrem Ince, charismatique, qui représentait les kémalistes, mais qui était plus modéré, notamment sur la laïcité, que le kémaliste de base, qui venait d'une famille pauvre, alors que les kémalistes sont censés être incarnant l'aristocratie. Charismatique, on l'a vu exalter les foules. Ils ont trouvé leur opposant, les Turcs.
C'est pas certain. D'abord, dès cette nuit, hein, finalement, il a déjà commencé à décevoir ses partisans, puisqu'il est parti un petit peu la queue entre les jambes, enfin, en disant qu'il allait faire un discours ce midi, mais sans donner un seul mot aux gens qui ont voté pour lui. Donc, ça a été déjà une grosse déception cette nuit pour les électeurs de l'opposition. On va voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, s'il arrive à capter un petit peu, à unir cette opposition, mais ça paraît quand même une tâche assez compliquée.
Comment va-t-il diriger maintenant Erdogan? Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan ». Vous avez de la chance d'être dans sa tête. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va confirmer son tournant autoritaire? Est-ce que ça va être l'hyper-président plus? Comment ça va se passer?
Ces élections montrent qu'il garde le pouvoir grâce à son alliance avec l'extrême droite ultranationaliste, celle du MHP, hein, qui est le parti des anciens loups gris. Donc, cette alliance va rester déterminante pour conduire la politique des prochaines années. C'est la continuité de ce qui se passe depuis 2015. Donc une alliance avec les ultranationalistes, ce qui va avoir des conséquences sur la politique avec les Kurdes, très importante. Ça va aussi avoir des conséquences sur la politique étrangère, puisqu'on voit qu'à l'international, l'alliance d'Erdogan, c'est plutôt avec la Russie qu'il l'a en ce moment. Donc une alliance avec les nationalistes en interne, avec la Russie en externe, ça reste le socle, à mon avis, de la politique des prochains mois.
Dans quelle mesure la crise des migrants que l'Europe que nous vivons et l'Europe doit faire face à cela, dans quelle mesure elle a pesé dans le vote turc?
Je pense pas que la crise des migrants ait joué un rôle particulier dans ce vote. Maintenant, ce que ça dit, c'est qu'Erdogan, c'est là aussi un de ses grands talents, c'est qu'il exploite d'une manière parfaitement efficace toutes les faiblesses de ses adversaires. L'Europe aujourd'hui n'est plus un partenaire pour Erdogan, mais un adversaire, hein. D'ailleurs, il a fait campagne plutôt contre l'Europe pour mobiliser ce vote nationaliste dont on parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'une des grandes faiblesses de l'Europe, c'est bien entendu son incapacité à répondre à cette crise des migrants, et Erdogan sait parfaitement exploiter cette faille.
Delphine Minoui, on vous a retrouvé. Encore une question sur la société civile turque. On a le sentiment qu'elle est muselée ces dernières années, qu'elle est empêchée par Erdogan et la toute-puissance d'Erdogan. Est-ce qu'elle reste dynamique? Est-ce qu'elle vit toujours? Est-ce qu'elle vibre toujours, cette société civile?
Évidemment, et je pense que cette campagne électorale a prouvé plus que jamais la vitalité de la société civile qui, en effet, a été extrêmement muselée. Il faut rappeler toutes ces purges qui ont été lancées pendant toute la période qui a suivi la tentative de coup d'État de juillet 2016. Donc malgré des moyens limités, malgré une pression renforcée, malgré tous ces opposants, ces journalistes qui sont derrière les barreaux, eh bien, la campagne a été très, très, très dynamique. On peut juste citer un exemple, parce que je pense que ça illustre ce dynamisme. L'ex-journaliste embastillé Amatchik, journaliste du grand quotidien indépendant Cumhuriyet, qui s'est retrouvé pendant de longs mois derrière les barreaux, à peine sorti, il a annoncé qu'il allait mener campagne pour le parti de gauche pro-kurde HDP. Mmh. Donc il a mené campagne et il l'a emporté. Aujourd'hui, il va siéger,
au Parlement.
Si les résultats des élections sont confirmés, il va siéger au Parlement, ce qui va permettre quand même de poursuivre ce débat malgré tout, même si les taux se resserrent de plus en plus.
Merci Delphine Minoui, merci Guillaume Perrier de nous avoir parlé de la Turquie ce matin. Merci à vous et belle journée à vous.
À tout à l'heure, Léa.